Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Bernard Poiret.
Ah, qui sont les polémistes ce vendredi soir? Un revenant, si si, Xavier Couture, dirigeant d'audiovisuel. Mais vous êtes déjà venu avec Marco, hein, je crois, il y a quelques jours.
Oui,
c'est ça,
je suis déjà revenu.
Vous n'avez pas eu la primeur de votre retour à ce
moment-là? Non, je l'avais exigé, mais on ne l'a pas accordé.
C'est ainsi. Allez, en tout cas, ravi de vous revoir, Xavier. Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du
Figaro.
Bonsoir,
Bernard. Bonsoir,
Yves.
Bonsoir, Xavier. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir, éditorialiste à RTL. Nicolas, bonsoir. Plus Romain Reynaert d'RTL.fr pour nous dire par exemple, Romain, ce que pensent les auditeurs de l'épouvantable opération de commercialisation à outrance qui s'appelle Black Friday. On en mange, mais depuis ce matin, mais jusque par-delà les yeux, est-ce qu'il leur semble que cette opération de Black Friday est à vous dégoûter à tout jamais d'acheter quoi que ce soit en solde ou au tarif plein? Qu'en disent-ils?
Eh bien Bernard, vous allez être content, c'est exactement ça. Une lassitude qui se transforme en rejet, voire en dégoût de la consommation. Yann en a ras-le-bol. Les publicitaires viennent de se réveiller, dit-il, et maintenant on en bouffe à toutes les sauces, c'est ridicule. Pour Jean-Marc, il s'agit d'un truc créé de toutes pièces pour faire croire aux gogos que des commerçants vendent à perte pour leur faire plaisir. Dominique parle, lui, d'arnaque et compagnie. D'autres mettent en lien ce Black Friday avec des questions de pouvoir d'achat bien plus terre-à-terre. Véronique estime ne pas avoir les moyens, quoi qu'il arrive, pour des achats plaisir. Elle préfère dépenser son argent dans une alimentation saine, dit-elle. Idem pour Thérèse, qui évoque des fins de mois difficiles, donc le Black Friday sera sans elle. À l'inverse, et pour finir sur une note positive, pardon, Sophie met en avant des remises intéressantes. Elle considère que Black Friday, finalement, c'est plutôt une bonne idée.
Non, mais c'est des soldes, on est d'accord, c'est des soldes. Mais ce qui est insupportable, c'est la globalité du Black Friday. Il n'y a pas une pub diffusée depuis ce matin sur RTL qui n'est pas Black Friday. Qui va défendre le
Moi,
Black Friday?
Moi, je défends le...
Vous, très
oui, le Black Friday, ben pourquoi pas?
Non, ça fait de la pub dans le Figaro.
RTL et France Télévisions et tous les gens.
En plus, c'est un anglicisme. Pourquoi on ne dit pas vendredi noir?
Non, soyons sérieux. Deux secondes, Bernard, je suis d'accord avec vous. Bon, c'est une mode qui nous est importée des États-Unis, comme il y a eu Halloween, vous avez vu, c'est Halloween, finalement, ça n'a pas marché, ça n'a pas pris.
Ah si, si.
Pas tellement.
Ça amollit, puis ça reprend.
Ça reprend un peu. Oui. Bon, si ça peut faire marcher les commerces, pourquoi pas? Moi, je vais vous dire une chose, grand libéral que je suis, si ça peut faire un peu plus d'argent à nos commerçants qui, de temps en temps, et souvent d'ailleurs, tirent la langue, eh bien, pourquoi pas? Simplement, ça a un inconvénient. Okay. Parce que vous savez que ce qu'on consomme, c'est en grande majorité ce qu'on importe. Oui. Et ce qu'on importe, eh ben ça nous coûte cher et ça nous endette.
Bah oui,
collectivement.
Le déficit de la balance, oui.
Donc, ça participe, le Black Friday, vraisemblablement, parce que évidemment les gens ils vont acheter tout ce que la technologie chinoise, tout ça, eh bien, ça participe à l'endettement collectif. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Sinon... Écoutez, on va pas en faire une maladie, parce que je vous sens là pas loin
je suis remonté
de,
comme une pendule,
oui, pas loin d'être obligé de prendre une petite pastille pour vous calmer.
Bah, écoutez, ce matin, en tout cas, on a eu, je crois que c'est la Camif qui a dit, on l'a diffusé d'ailleurs ce matin. Et ben nous, on le fait pas justement parce qu'on est des commerçants responsables. Bah, on veut pas pousser à la roue comme des malades. Nicolas,
personne n'a obligé de la faire.
D'abord, je me suis demandé si c'était pas un attrape-nigaud, si vous voulez, c'est un piège. Donc, comme vous avez pas le temps de le faire, je suis allé vérifier s'il y avait vraiment des offres passionnantes, notamment sur Amazon. Donc, je vous signale. Moins 38% sur la douchette, moins 30% sur la lingerie sans complexe, moins 56% sur l'épilateur et moins 73% sur l'ouvre-boîte main libre. Donc je pensais que ça vous intéresserait. Donc il y a quand même...
Vivement la fin de l'émission.
Voilà, à trouver, mais si vous voulez, dans ce Black Friday, il y a deux choses. D'abord, on a eu la même polémique aux États-Unis et il y en a qui ont pris la défense en disant eh bien, c'est le moment où les Blacks et les Latinos qui ont moins de moyens que les autres peuvent acheter. À des bons tarifs. Et cela dit, dans Black Friday, il y a l'explosion du truc. C'est-à-dire, on sent que c'est noir, et qu'à un moment, on va crever de l'orgie. Donc, il ne faut pas se faire de soucis. Je veux dire, ça va venir.
Xavier Couture.
Évidemment, on peut rejoindre Yves sur l'idée que si ça peut permettre une consommation un peu soutenue et accélérée, malgré effectivement le fait que la plupart du temps, ce sont des produits de première consommation venant de l'étranger, donc qui alourdissent la dette. Mais enfin, bref. Quand même... Est-ce que vous savez d'où ça vient, ce nom de Black Friday?
J'en sais rien.
Eh bien, ça vient de Philadelphie.
C'est un pub
en 1960, à Philadelphie, ça a été inventé. Et les flics de Philadelphie, considérant que ça faisait des embouteillages monstres, des accidents, ont dit « Waouh, c'est Black Friday ». Donc, la connotation est négative. Et puis, en relisant mes notes, je me disais, dans le fond, je repense à mes vieilles lectures de Karl Marx, et
quand
il parlait
quand vous étiez marxiste.
Le fétichisme de la marchandise, aussi il y a longtemps. Le fétichisme de la marchandise. marchandises. Et je relisais Barthes et Baudrillard et tout. C'est vrai qu'on est dans un truc. C'est absurde. Parce que qu'est-ce que célèbre le Black Friday ? Il ne célèbre rien d'autre que la consommation.
Ah oui.
Au moins, quand on parle de Halloween, quand on parle de je ne sais quoi, à la limite,
il y a un
même,
truc festif.
À la limite même nos inventions à nous, qui sont la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères, enfin, toute la fête du fromage frais, enfin, toutes les bêtises qui permettent d'accélérer la consommation, au moins, il y a un support de quelque chose. Là, il n'y a rien d'autre que l'idée de célébrer la consommation.
Fête de la carte bleue.
C'est vraiment ridicule.
Et attendez, on dirait quand même pour terminer jusqu'à dimanche inclus, hein, oui, parce que c'est vendredi, samedi, dimanche.
Et puis, pour terminer rapidement, je dirais quand même que. Honnêtement, l'américanisation de ce genre de célébration, c'est quand même ridicule, y compris dans la dénomination Black Friday. Quoi.
Oui, bon, oui, oui.
Non, le vendredi noir, vendredi noir, ça fait vraiment envie.
Il y a des origines qui remontent plus loin que ça, Xavier. Je crois qu'ils remontent au XVIIe siècle avec la création de Thanksgiving. Oui. Thanksgiving qui est, vous savez, c'est Mayflower.
Oui, c'est les pères fondateurs qui arrivent.
Après Thanksgiving, il y avait le jour de la consommation, je crois savoir.
Il y avait le jour du plaisir, qui n'était pas pareil.
Voilà.
Et, donc, depuis 1960, on a inventé le Black Friday qui est le lendemain de Thanksgiving.
Disons à nos auditeurs que s'ils veulent faire, ils peuvent se faire plaisir quand même.
Ils peuvent se faire plaisir.
À tous les points de vue.
Qu'ils regardent le Figaro, qu'ils regardent les pubs et qu'ils aillent acheter.
Qui était juste un petit peu coincé. Écoutez le prochain écran de pub, mes amis. 19h28.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Bernard Poiret.
Ce soir avec Nicolas Domenac, Yves Tréhard et Xavier Couture et je cafte. Xavier nous a expliqué pendant la pub pourquoi le Black Friday nous a envahi cette année, en 2017. Parce que Amazon, qui est maître du monde, le faisait depuis des années, le Black Friday, au niveau mondial. Et comme il progresse de manière monstrueuse en termes de chiffre d'affaires, eh bien, les autres, tous ceux qui ne sont pas Amazon et qui cherchent à vendre quelque chose, se sont dit bon, bah, il va falloir nous aussi qu'on fasse Black Friday.
Voilà.
C'est
voilà.
Pour ça que cette année, on en peut plus avec Black Friday, et à mon avis, les années prochaines aussi. Bon, allez, on va passer à autre chose.
J'ai des problèmes avec du off, moi, en ce moment.
Si vous le voulez bien, oui. Taisez-vous. Alors, hier, il y a Emmanuel Macron qui est allé devant les maires de France, le Congrès. Alors, je sais que Marc-Olivier Fogiel l'a traité hier soir, mais c'était quand même suffisamment intéressant, me semble-t-il, pour qu'on y revienne. Parce qu'il a promis plein de choses, il a annoncé plein de choses. Une grande réforme fiscale pour 2020, la fin pour tous de la taxe d'habitation. Il a promis, juré, craché, que tout ce qu'on allait piquer donc aux collectivités locales, eh bien, sera remboursé au centime près, au centime d'euro par l'État central, etc., etc. Est-ce qu'on peut raisonnablement croire à tout cela ? Je vous pose la question, Romain Reiner, qu'en pensent les internautes ?
Écoutez, j'ai lu plusieurs fois l'expression « c'est du vent », notamment utilisée par Louane, Laurent et Lionel, quelques « c'est du blabla », et un « comme d'habitude », écrit par Jean-Claude, qui reproche à Emmanuel Macron de ne pas assumer ses responsabilités. Si ça ne marche pas, dit-il, il dira que c'est la faute des maires. Christian considère que le président se fout de la gueule du monde et Quentin déplore une absence de concret dans ses annonces. Heureusement pour lui, le chef d'État a quand même quelques défenseurs. Je nous dis qu'un président qui fait ce qu'il a annoncé en campagne, c'est une révolution pour le mental des Français. Et l'avenir sera finalement le seul juge. Armand n'est pas aussi enthousiaste, mais il laisse quand même sa chance à Emmanuel Macron. Le dire, c'est bien. Le faire, ce sera mieux. Et Brigitte se demande tout simplement, mais qu'est-ce qu'ils en pensent, les maires, au final ?
Bah, globalement, ils ont applaudi, mais quand on les prenait un par un, j'ai écouté les reportages, ils avaient l'air assez dubitatifs, tout de même. Qu'en pensez-vous, Yves Tréhard ?
Écoutez, moi, j'ai été quand même assez bluffé. Parce qu'il les a quand même retournés. Moi, ce que j'ai adoré, c'est quand sur la taxe d'habitation précisément,
parce qu'il
quand
est arrivé sous les sifflets, voilà. Il est parti sous les applaudissements.
Et sur la taxe d'habitation, ils l'ont applaudi à deux reprises. Alors moi, ce que je veux bien, ce qu'il dit n'est pas très neuf en fait. Tous les hommes politiques de républicains raisonnables disent depuis longtemps que l'imposition, les impôts locaux, sont pas justes, sont illisibles, c'est une usine à gaz, 67. Les bases locatives, notamment. Et qu'il y a trop de bureaucratie et qu'il croule sous la bureaucratie d'État. Il dit deux choses. Il dit, un, bon, moi je vais vous supprimer ces vieux impôts. Simplement, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il va les remplacer. Il l'a dit.
Par d'autres.
Par un autre. Et donc, ça va rien changer du tout. Ouais. Et je redoute fort qu'il remplace une usine à gaz par une autre usine à gaz, si vous voulez. Et que finalement, au bout du compte, les contribuables, eh bien, ils n'y trouvent pas leur compte. Deuxièmement, sur la bureaucratie, j'attends de voir, parce que depuis le temps qu'on nous dit, dans ce pays, droite et gauche confondues, qui vont simplifier le choc de simplification, vous savez, on l'attend toujours. Hein, ça fait quand même depuis Sarkozy qu'on attend ça. Donc, je suis assez dubitatif. Simplement, je trouve que l'explication, la démonstration est assez brillante. Sur le fond, il faut effectivement être plutôt méfiant. Je ne suis pas sûr que les contribuables, ils retrouvent leur compte parce que, qu'est-ce qu'il a quoi comme choix ? Soit de créer un autre impôt. d'autres impôts, ce sera à peu près la même chose, avec peut-être des bases différentes, soit d'aller voir s'ils ne peuvent pas détourner une partie de la TVA.
Mais de toute façon, tout l'argent puis, qu'on prend quelque part, il faudra le compenser. Et après, je m'arrête. Il y aura toujours quelqu'un qui va gueuler.
Il ne dit pas une chose, c'est qu'il dit que l'État va compenser, dans un premier temps. Très bien, mais l'État, pour compenser, ben il va encore s'endetter.
Il faut
qu'il fasse des économies ailleurs. Et quand il s'agit de faire des économies, pareil, droite et gauche confondues, ils sont incapables de nous dire où est-ce qu'ils vont en faire.
Nicolas Domenac.
Non, alors, il avait d'abord un défi politique, hein, après avoir fait beaucoup de fautes vis-à-vis des élus locaux à l'été, après l'été, et alors on a les avoir multipliés. Il ne fallait pas qu'il sorte de ce rassemblement des maires comme le président des mégalopoles mondialisées face au terroir en révolte, ce sur quoi s'appuyait la droite pour mener la seule campagne qu'elle mène jusque-là. Hein, la campagne, c'est nous les provinces et c'est lui l'homme d'en haut.
Oui.
Il avait mérité qu'on lui accroche ce grelot d'ailleurs, mais là, il a quand même réussi à faire la pirouette nécessaire pour s'en sortir. Ça ne garantit pas que ce pouvoir qui a retrouvé sa verticalité arrive enfin à conquérir aussi l'horizontalité, parce qu'on l'a vu avec les syndicats, il a réussi à leur passer la main dans le dos, mais il n'a absolument pas fait de la co-construction avec eux, hein, ou de la démocratie à la Ségolène Royal, participative, non, etc.
Il les endort.
Il les endort. Et là, pareil c'est avec les maires. Est-ce qu'il va réussir, au fond, ce pari, parce que c'est un vrai pari, mais pour toute la société, c'est pas seulement vis-à-vis des maires,
c'est
comment
nous, c'est
ce pouvoir qui a retrouvé de l'autorité et enfin peut parvenir à un stade supérieur de la démocratie, c'est-à-dire considérer réellement les pouvoirs intermédiaires, ce qu'il ne fait pas. Alors là, on verra dans 6 mois, on se donne rendez-vous dans 6 mois.
On le refera le débat, hein,
parce que
problème.
C'est important pour tout le monde. Je veux dire, est-ce qu'on va devenir une démocratie adulte ? Moi, je suis ravi qu'il ait repris de la verticalité, hein, et qu'on respecte au fond la distance, etc. Mais il n'a pas fait la démonstration qu'elle puisse s'accompagner d'une horizontalité.
Alors, on va écouter Xavier Couture dans un instant, bien évidemment sur ce même thème, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il faut faire confiance à ce qu'a dit M. Macron hier devant les maires et plus globalement, puisque ça engage quand même les finances publiques et une partie de notre quotidien pour les prochaines années ? Juste après la pause, si vous le voulez bien. Il est 19h38 sur RTL.
On refait le monde dans RTL Soir.
Bernard Poirette.
Avec Yves Tréhard, Nicolas Domenac et Xavier Couture, donc à qui je cède le micro sur les promesses de M. Macron, maire de France.
Je crois que tout a été dit, mais je vais juste rajouter quelque chose. C'est ce qui me fascine chez Macron, c'est cette capacité à aller au-devant d'une population, entre guillemets, hostile.
Une adversité. Oui.
Une adversité et de poser les problèmes. C'est-à-dire de dire, voilà, premier point. Deuxième point, j'ai eu tort. Il le dit, le mauvais été, sur les emplois aidés, il est certain que j'y suis allé trop fort, c'était pas bien, mais... Et puis on va tout reprendre à la base. Et derrière, faut pas limiter les propositions uniquement à ce qui a été dit. Il y a aussi cette histoire de consensus sur le logement, d'une grande la conférence, il y a un certain nombre de... Non, mais on sent qu'il y a une volonté de... Et je rejoins absolument à ce qu'a dit Nicolas, il y a cette volonté de rajouter de l'horizontalité à la verticalité... qui est quand même propre, d'une part, à la Ve République, et d'autre part,
à lui. Mmh.
Et donc, il se transforme, lui, l'homme de Paris, l'homme de l'élite, l'homme de la verticalité, il se transforme en... Il essaye de raccommoder la fracture territoriale et ses territoires oubliés. Et j'aime bien cette définition qui est il est girondin. Il marie la vieille politique girondine avec le jacobinisme. Donc il y a Jacobin, je sais pas comment. Donc voilà, il y a cette volonté de réconcilier cette autorité de l'État et à laquelle moi je crois qu'il a raison d'essayer de remettre un tout petit peu de majesté. Et puis ce dialogue avec les maires. Et moi je suis sidéré par le fait qu'il soit effectivement arrivé sous les sifflets, en partie sous les applaudissements,
oui, mais faut le faire quand même.
Mais tout de même, vous seriez maire. Si c'est déjà arrivé, pardon, c'est un classique que les maires râlent pendant 1, 2, 3, 4 jours.
Oui.
Le père arrive, enfin, le président de la République, et remet les maires dans sa poche. C'est quand même.
Ils ont été impressionnés parce qu'il leur a accordé 1h30 de son temps.
1h30, il a dit les choses, et c'est pas mal. Il pouvait pas faire moins, il pouvait pas les prendre par-dessus la jambe. Je crois que vous oubliez une chose, c'est que quand il y a eu le premier congrès des maires, mandat de François Hollande, on était en pleine réforme du mariage pour tous.
Oui.
Et François Hollande avait lancé cette réforme.
Ils étaient priés de marier les homosexuels.
Non, et alors François Hollande, devant la bronca de certains maires, avait dit, mais de toute manière, ça ne sera pas obligatoire, vous ferez comme vous voudrez.
Oui, c'est
ça
à votre choix.
Quand même. Alors que lui, il n'est pas arrivé dans cet état d'esprit-là. Absolument. Il leur a dit... je ne renie rien de ce que je veux faire.
Je vais vous expliquer.
Je vais vous expliquer, même si j'ai fait des erreurs de communication, en tous les cas de méthode. Ouais. Mais il joue très gros. Pourquoi ? Beaucoup plus gros que n'importe qui. Il n'a pas d'élus locaux.
Non.
Il a des élections locales qui se profilent en 2020. Et c'est très important, parce que c'est vrai que la droite qui n'arrive pas à s'opposer, et qui est quand même... très présente dans les territoires. Elle a beaucoup de grandes villes, elle a beaucoup de départements, elle a beaucoup de régions.
Le Sénat est là pour le moment.
Elle a tout ce qu'il faut. Elle peut très très bien, facilement, même en ne disant rien, se refaire la cerise en 2020 si le mécontentement s'installe effectivement dans des petites communes, dans les territoires, comme on dit.
C'est inquiétant. Nicolas Domenech. C'est très important, je voulais dire, ce que dit Yves Tréhard. Non pas exceptionnellement, mais en tout cas particulièrement.
En tout cas ce soir, vraiment.
Parce que, au fond, l'obsession d'Emmanuel Macron, du président, c'est de ne pas apparaître comme un François Hollande qui reculerait à chaque opposition.
Bon cas.
Depuis le début, c'est ça, d'installer cette autorité-là qui le distingue vraiment. Là, et donc, parce que sinon, le pouvoir est paralysé, l'État qui est déjà flagellant disparaîtrait. Donc, c'est là-dessus qu'il campait. C'est pour ça qu'il n'a fait aucun recul. Et c'est pour ça aussi que le défi qui est devant lui est énorme.
Ajoutons quand même que... actuellement, et je comprends les collectivités, en tout cas les maires, mais qui font partie de des collectivités territoriales.
Ils serrent les fesses quand même, ces gens-là.
Au regard de la dette, de la fameuse dette de ce pays qui aujourd'hui est supérieure à 2000 milliards, sont de meilleurs élèves que ne l'est l'État. Donc on peut comprendre aussi que les maires la trouvent un peu saumâtre, qu'on leur coupe les crédits alors qu'ils sont moins générateurs.
De 20%. Ils sont 20% de la dette.
Voilà. Et par ailleurs, ils ont baissé leur augmentation de la dette. Ils ont même baissé leur dette de manière en valeur absolue quand l'État continue à
absolument,
augmenter.
Absolument, absolument, tout à fait. La suite de RTL Soir et la suite d'On fait le monde dans un instant. Il est 19h46, on s'arrête quelques minutes et ensuite on parle du troisième et dernier sujet qui est celui, d'après ce que j'ai compris, qui fait le plus réagir les internautes. Il s'agit de la féminisation des titres et des fonctions, puisque l'Académie française, après 20 ans de cogitation, a fini par dire oui. A tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h, on refait le monde. Bernard Poiret.
Les polémistes ce soir, Xavier Couture, Yves Tréhard, Nicolas Domenech, Romain Reiner pour les réseaux sociaux. Alors écoutez, avec 20 ans de retard, puisque tout cela a été pondu à l'époque où M. Jospin était à Matignon, les immortels approuvent la féminisation des titres et des fonctions. Les immortels étant les académiciens français. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? En tout cas, est-ce que les internautes s'en réjouissent?
Écoutez, je vais complètement vous surprendre, c'est un débat qui déchaîne les passions.
Ah, je le sais.
Alors, j'ai Sylvie qui s'interroge. L'Académie est-elle prête à évoluer ou à se coucher devant une minorité de dégénérés ? Je précise qu'elle a écrit le mot dégénéré au masculin.
Oui.
Elle poursuit. N'oublions pas qu'est à l'origine de cette idée tordue, les féministes adeptes de la théorie du genre, adeptes de la destruction de la famille et de l'homme.
Ouh, ça s'est osé comme raisonnement.
Michel appelle à la résistance. C'est lui qui utilise ce mot contre la féminisation. Il demande à ce que l'on refuse d'employer ces règles nées de la complaisance au féminisme le plus stupide. Et beaucoup d'internautes se demandent, et c'est réellement beaucoup d'internautes qui se demandent, s'ils doivent appeler une avocate par le titre de maîtresse, puisque son homologue masculin se fait appeler maître. Fanny Grêle que la féminisation ouvre la porte à une reprise totale de la langue pour tout neutraliser pour ceux qui ne se retrouveraient dans aucun genre. Et Jean-Louis rappelle que l'Académie n'est pas propriétaire de la langue, au contraire du peuple. Selon lui, c'est au peuple de décider par l'usage ce qu'il en fait.
Oui, enfin l'Académie, elle a un rôle important quand même pour la sauvegarde de la qualité de la langue en général. Il ne faut pas rigoler. Donc
ouais.
Ils ne sont pas là les hurluberlus en vert. Bon, ouais. Écoutez, il y avait Jean-Marie Rouard à 18h15 qui était l'invité d'RTL Soir. Il me disait, écoutez, tout ça c'est à géométrie très variable puisque... Par exemple, Madame Hidalgo dit « Je veux qu'on dise Madame la maire » et Madame Aubry dit « Pas question, appelez-moi Madame le maire
».
Donc, voyez le topo. Hein. Ok,
je crois que...
Et bon, donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Qu'en pensez-vous, Xavier Couture, par exemple, de cette histoire? Ça passionne les Français.
Moi, effectivement, parce que c'est passionnant. Et honnêtement, moi, je suis un vieux militant féministe et je pense qu'il faut faire le minimum pour que la langue évolue. Ça me paraît quand même bien le moins. Et l'Académie, on peut dire... a pris un certain retard. Simplement, ce débat arrive à un moment où
on fait quelques folies avec, avec la langue. Et honnêtement, autant je pense qu'il faut donner le féminin aux fonctions professionnelles, qu'il faut essayer d'élargir évidemment l'ensemble de notre vocabulaire courant pour laisser toute leur place aux femmes, c'est évident, autant l'écriture inclusive, qui est une espèce de machin absolument alambiqué, me paraît totalement
fou. Ils ont dit non,
mais bien sûr. Ils ont dit que c'était un péril mortel pour la langue.
Même le Premier ministre est contre.
Le Premier ministre. Non, mais après, on arrive à des débordements. Vous parliez tout à l'heure de la maire de Paris, Madame Hidalgo. J'ai cru comprendre qu'un adjoint à Europe Écologie Les Verts, à la ville de Paris...
Une adjointe
voulait transformer les journées du patrimoine en journées du matrimoine. Ouais. Moi, je veux bien, Bernard Moirette, mais il y a un moment où il faut...
Il l'avait préparé, celle-là.
J'avoue. Mais honnêtement... Faut pas non plus quand même sombrer dans le grotesque. Je pense qu'il faut effectivement que la langue évolue. Il faut évidemment que les femmes trouvent toute leur place dans notre société. Elles ne l'ont pas encore. Et il faut se battre pour qu'elles l'aient, y compris sur des sujets plus graves, comme l'égalité des rémunérations, par exemple. Qu'on cesse effectivement les violences. Et je crois que le président de la République va s'en occuper. Hein. Oui, voilà. Je pense qu'il y a des choses vraiment, vraiment très importantes. Honnêtement, essayons de faire en sorte de garder sur ce débat un minimum d'équilibre, un minimum de raison.
En tout cas, je suis très content parce que j'ai séché M. Rouard tout à l'heure en lui disant « Et les hommes grenouilles ?» Qu'est-ce qu'on en fait des hommes
grenouilles ? Les grenouillettes, hein ?
Voilà, je vous en prie, Nicolas Domenac.
Oui, non, on ne peut pas compter sur l'Académie française, à mon avis, pour faire bouger la langue, l'accompagner, etc. C'est un monument de réaction et de réactionnaires. Moi, j'aime bien l'Académie française.
Ils ne sont pas tous réactionnaires, Nicolas,
j'aime bien quand ils font leur soirée costumée, et j'adore le discours, mais en dehors de ça, je veux dire, dans l'histoire de France, le poids de l'Académie française a été un poids de réaction absolu, quoi. Et donc, ce qu'il faut regarder aussi, alors sur cette histoire de féminisation, je vous rappellerai que Laurent Fabius, Premier ministre, avait fait une circulaire préconisant la féminisation. Exact. Il avait fallu ensuite une nouvelle circulaire d'un autre Premier ministre, et bien notre actuel Premier ministre, Édouard Philippe, vient de refaire une circulaire pour la féminisation. Donc ça se heurte à des résistances réelles, et je compte absolument pas sur l'Académie française pour aller au-delà de ces résistances et d'aider à une évolution, à mon avis, qui s'impose. Alors, cette.
Il y a une histoire à l'Académie française qui fait qu'il y a une résistance très forte. Je pense que la majorité est plutôt contre, mais il y en a certainement qui seraient ouverts à des évolutions. C'est Madame Carrère-Dancausse elle-même, le secrétaire perpétuel de l'Académie française, parce que Madame Carrère-Dancausse ne veut surtout pas qu'on féminise sa fonction, et même par écrit, il faut qu'on écrive
Madame le
secrétaire perpétuel. Donc elle est très hostile à ça. Il y avait un autre monument qui est décédé depuis, qui s'appelait Maurice Druon, et qui était à fond contre tout ça. Donc, mais l'arbitre, le problème, si vous voulez, c'est que, c'est pas le problème, mais l'Académie française est peut-être l'arbitre des élégances. Elle en a le titre, mais la langue évolue sans attendre l'Académie française. Vous savez, l'Académie française est à la langue française ce que le Parlement est à l'évolution des pratiques, des us et des coutumes de notre pays. Ils ont toujours un temps de retard. Cela dit, pour ce qui est mon opinion personnelle, c'est que je trouve que la féminisation de temps à autre est quand même, je trouve, assez peu élégante et assez peu esthétique. Qu'on dise un avocat, une avocate,
évidemment.
Parfait.
Mais pour les métiers, parfois, c'est facile.
Il y a quand même dans les fonctions, notamment, et c'est là où je crois la réticence est la plus forte à l'Académie française, dans les fonctions, parfois ça vire au ridicule. Et je crois, comme Xavier, que l'important, il n'est pas tellement là-dedans, il est plutôt effectivement dans la rémunération et le respect dû
aux femmes. En
même temps, je crois. Il y a combien de femmes à l'Académie française ?
Il n'y en a pas beaucoup.
Non, ça progresse aussi.
Juste
pour terminer, dire qu'effectivement, ces choses, ces éléments de la vie quotidienne créent du déterminisme et qu'effectivement, ça emmène les femmes plutôt dans des voies que dans d'autres et qu'il faut effectivement lutter contre ce déterminisme dont la langue est l'un des éléments. Voilà.
19h56 sur RTL. Merci de nous avoir suivis sur ces trois thèmes de débat assez rock'n'roll, je dois le dire.
Vous écoutez RTL.